Grâce à vous, auditeurs et auditrices toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973.
Avant, j'étais pas bien. Pas bien avec moi, pas bien avec personne. Avant, je me faisais peur. Mais c'était avant. Avant, quand j'étais toxicomane.
Quand la toxicomanie prend toute la place, il y a portage. Au Québec, des milliers de personnes sont toxicomanes. Aidez-les à s'en sortir. Donnez à Portage. Visitez portage.ca.
Maintenant, je suis bien. Vraiment bien. Maintenant, je suis fier de moi. Maintenant, je vis. Donnez à Portage.
Les samedis, minuit, partez sur l'autoroute aux côtés de Stéphane Villeneuve et sa musique rock et progressive des années 1970 et 80.
C'est KRL 89.1.
Bonjour à tous, ici Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL. Dès maintenant, midi et jusqu'à 13h, vous écoutez Au 7e ciel, regard sur le cinéma, une émission entièrement consacrée au cinéma et au cours de laquelle, puisqu'on est en juillet, je me fais un petit cadeau. On est en temps de détente et d'actualité cinématographique qui n'intéresse pas toujours tellement cette émission, puisqu'il n'est pas spécialement question dans l'émission Au 7e ciel du cinéma commercial ou des grandes sorties des films dits blockbusters. Donc, je vais plutôt parler aujourd'hui de encore une fois, comme la semaine dernière, de cinéastes qui a marqué une partie de l'histoire du cinéma, au moins du cinéma contemporain, depuis les années 60. La semaine dernière, j'ai parlé de François Truffaut. Cette semaine, ce sera Claude Chabrol. Donc, Claude Chabrol, qui est un cinéaste qui est de la même génération que Truffaut. Hein. J'ai envie d'inscrire aussi cette émission dans une continuité de semaine en semaine. Génération principalement formée dans les salles de cinéma, une génération de cinéastes cinéphiles qui ont d'abord eu une pratique critique dans diverses revues, pour Truffaut et Jean-Luc Godard, entre autres la revue Art, la revue Cahiers du cinéma. Pour Chabrol, Cahiers du cinéma, c'est aussi quelqu'un qui a travaillé, et Godard à sa suite, à la Fox, comme un agent de promotion. Et ensuite, Chabrol a été le premier cinéaste de cette génération de jeunes Français, ce qu'on appelait les jeunes Turcs, à la fin des années 50, à réaliser des films. Aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur deux films de ce cinéaste important qui est décédé l'an dernier, en fait en septembre dernier, ça fait un peu moins d'un an. Deux films qui font un peu le grand écart entre la production phare, qui a été peut-être une des apogées de la filmographie de Claude Chabrol, donc vers la fin des années 60. Il y a un peu trois périodes très marquantes dans le cinéma de Chabrol et d'autres films qui le sont un peu partout au cours de sa filmographie, mais quand même trois périodes plus intenses. La première, celle du début des années 50, donc tout simplement les débuts de Chabrol qui correspondent aussi au début du cinéma de la Nouvelle Vague. Truffaut, Godard, Rivette vont à sa suite ou un peu en même temps réaliser des films. Chabrol est le premier à faire un long métrage dans le groupe. Et plus tard, à la fin des années 60, après une période assez creuse où Chabrol enchaîne les commandes, des films de série parfois, y compris la malheureuse série Les Tigres, ou en tout cas c'est un peu le genre de série qu'on ramène toujours sur le tapis pour se moquer de cette période de tâcheron de Chabrol. Donc après cette période un peu difficile, autour de mai 68, bon, en tout cas autour de 1968 pour être plus précis, le moment justement où se déroule un événement qui est important dans l'histoire du cinéma français des années 60 et aussi assez important pour comprendre l'année 68 en France, le moment où Henri Langlois, directeur de la Cinémathèque, par le gouvernement, par le ministère de la Culture, est appelé à quitter ses fonctions. Donc, dans cette période-là, Chabrol qui est au devant du militantisme pour que Langlois conserve son poste. Quelques semaines, tout juste quelques semaines avant mai 68, avec des sorties légendaires dans la rue que l'on voit reproduites d'ailleurs dans, dans un film de fiction assez récent de Bernardo Bertolucci qui s'appelle The Dreamers. Suite à ça, ou un peu en même temps, Chabrol fait une série de films, entre autres Les Biches, Que la bête meurt, La femme est fidèle et également La rupture. Le boucher, des films qui ont d'une certaine manière renouvelé l'inspiration chabrolienne ou en tout cas indiqué un nouveau souffle dans la filmographie chabrolienne. Et plus tard, je dirais, c'est plus difficile à délimiter cette période-là, mais au cours des années 2000, fin des années 90, il y a un nouveau souffle dans le cinéma de Chabrol, ou en tout cas, il enchaîne les films de manière un peu moins régulière. Bon, il faut dire que son rythme était particulièrement ébouriffant, en général un film ou deux par année. Donc là, il calme un peu le jeu. Un film aux deux ans, et on a droit à des films qu'il qualifiait lui-même de beaucoup plus réfléchis, non pas que ces films, par exemple, qu'il enchaîne au milieu des années 60, ouais, ou à la fin des années 60, ne l'étaient pas, mais on sent une volonté de prendre davantage son temps, qui a à voir avec l'âge, mais non seulement avec l'âge, mais aussi avec son désir de ne pas nécessairement faire un film pour faire un film, parce qu'il a envie de la pratique de cinéma, parce qu'il a soif de création cinématographique. Donc aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à un monstre sacré du cinéma, justement, et un cinéaste qui, à travers ses films, offre une vision du monde très singulière, mais aussi démontre sa soif et sa passion pour le cinéma.
Thank you. Je ne suis pas représentant, ni un tapeur, ni un quêteur, ni un huissier. Ça me rassure, mais ça ne répond pas à ma question. C'est extrêmement difficile de répondre à votre question. Par exemple, si je vous dis qui je suis, vous allez vous tromper sur le sens de ma démarche. Mais dites-le quand même. Je suis le mari d'Hélène. Oh là là.
Non,
je vous dis, ne vous trompez pas sur le sens de ma démarche.
Allez, laissez-moi le temps d'être un peu interloqué. Eh bien, entrez.
Entrez, je vous en prie.
Quelque chose?
Un whisky, je veux bien.
Scotch ou bourbon?
Non, bourbon. Pour une fois.
C'est raison, le matin, c'est meilleur.
Merci. Maintenant que je vous explique.
Ah oui, ça, je vous en prie.
Je ne sais pas si Hélène vous l'a dit, mais nous vivons ensemble d'une façon très libre. Nous nous aimons beaucoup, nous sommes très unis, mais nous avons compris l'un et l'autre qu'il ne fallait pas empiéter sur nos libertés réciproques. Vous me suivez?
Ah, très bien, très bien.
Bref, il existe entre nous une complicité que vous devez certainement comprendre. Je la tiens au courant de ma vie comme elle me raconte la sienne. Quand elle m'a parlé de vous, j'ai tenu à vous connaître.
Écoutez, j'en suis enchanté. Un peu surpris peut-être, parce que je n'avais pas envisagé votre couple de cette façon-là. Mais je trouve ça épatant.
Vraiment?
Ah oui. Vous savez, on a toujours un peu de scrupule de coucher avec une femme mariée. On a peur des histoires, des salades, des trucs. Enfin, moi, en tout cas. Mais là, vous m'assurez.
D'autant plus que vous êtes un cas un peu particulier.
Ah bon?
Hélène a bien des aventures. Enfin, sans exagérer. Ce n'est pas ni pas tant l'air. Mais en général, ça ne dure pas plus d'une fois ou deux. Vous êtes un privilégié.
Oh, vous savez, je ne la connais pas. Pas tellement, je ne la connais que depuis 15 jours, 3 semaines. Alors...
Comment l'avez-vous rencontrée? Pardon, vous avez du feu?
Non,
vous avez du feu.
Oui, mais je ne fume pas à cause de... Je ne fume jamais le matin à cause de... Ça s'est fait tout à fait par hasard, au cinéma. J'étais assis à côté d'elle, n'est-ce pas? J'ai senti une sorte de... disponibilité. Enfin, vous savez bien ce que c'est, bien entendu. Alors, en tout cas, le film était mauvais, n'est-ce pas? Alors, nous avons râlé ensemble, et puis, après, nous sommes sortis prendre un verre pour nous remettre. Alors, le lendemain, je vais donner mon adresse, et puis elle est venue, voilà, rien de plus simple.
C'est très rigolo.
Oh, vous savez, ça arrive tous les jours.
Ça va bien?
Pardon?
Enfin, je veux dire, vous en êtes content?
Pas mal, oui, pas mal. Alors, ça, sans histoire. Maintenant, je comprends pourquoi.
Ah oui?
Ah bah oui, vous ne l'élevez pas positivement dans le sens du péché,
non? Ça, c'est vrai.
Elle est une bonne petite fille.
On est mariés depuis 11 ans, vous savez.
Ah oui?
Nous avons un fils.
Oui, je sais. Elle m'a raconté tout ça. Vous voulez un autre verre?
Mais volontiers, merci.
Pardon.
On vient d'entendre un extrait d'un dialogue entre deux acteurs du film La femme infidèle de Claude Chabrol de 1968. Deux acteurs qui ont pour nom Michel Bouquet et Maurice René. une confrontation d'acteurs qui est bien dans le ton du type de climat que propose Claude Chabrol, à qui cette émission est consacrée aujourd'hui, dans les films qu'il réalise au cours de cette période de sa filmographie, c'est-à-dire à la fin des années 60. Une tension qui permet non seulement de montrer à l'œuvre tout le pouvoir dont fait preuve Chabrol à titre directeur d'acteur, mais aussi sa capacité à créer un climat par le simple échange de quelques répliques qui sont écrites au couteau et qui relèvent d'une habileté à susciter des sous-entendus par le simple usage des mots et de ce fait inventer un climat cinématographique. Et là, on voit que Chabrol est tout à fait dans un type de cinéma emblématique de ce que peut se faire de mieux dans le cinéma français, c'est-à-dire un cinéma qui semble passer par la parole, mais qui en fait fait usage de la parole pour créer une tension qui dépasse largement le simple fait que les acteurs maîtrisent bien leur réplique et savent bien jouer avec les mots et avec l'intonalité de la voix, etc. Donc, ce film-là, La femme infidèle, est peut-être assez emblématique de ce que Chabrol a pu faire de mieux, c'est-à-dire qu'il propose souvent en sous-main une forme de critique acerbe des mœurs des personnages qu'il montre et leur conflit tout à fait avéré, même si larvé dans les répliques, à peine explicite, un conflit souvent avéré entre les mœurs telles qu'il voudrait être vécu en étant dans une contemporanéité avec les nouvelles donnes. Bon, là, on est à la fin des années 60. Michel Bouquet, le personnage qui arrive dans l'appartement de Maurice René, est un patron qui est marié, évidemment, marié avec cette femme qui le trompe avec Maurice René. Et Bouquet va voir dans cette séquence charnière du film René chez lui, après avoir fait une enquête, après avoir payé quelqu'un pour qu'il suive à la loupe les déplacements de sa femme. Et donc, en allant vers René, le sujet de conversation est d'emblée l'ouverture d'esprit qui est tout à fait dans le ton de la libération des mœurs que l'on retrouve un peu partout à l'époque, et donc contemporain en fait de cette période de création importante pour Chabrol fin des années 60, qui rejoint une libération des mœurs, mais que Chabrol utilise à sa manière, en fait, pour mieux représenter la perversion de ces personnages et leur donner un nouvel alibi. C'est comme si l'idéologie dominante, ou plutôt à la mode, pas dominante, devenait tout à coup un instrument. Et ça a souvent été ça, en fait, le cinéma de Chabrol dans son rapport à la mode. Et Chabrol a su toujours récupérer dans son cinéma des éléments de la culture contemporaine pour mieux les pervertir, pour mieux montrer l'état de régression dans lequel se posent ces personnages. Et donc, à la fin de cette séquence dont je viens de présenter un extrait sonore, Michel Bouquet va littéralement assassiner Maurice René lorsqu'il lui a le dos tourné. Il l'assomme avec une petite statuette mythologique, ou en tout cas une petite statuette égyptienne, et donc va plus ou moins tenter d'étouffer au maximum, comme on fait un sarcophage en le plaçant, comme on faisait un sarcophage sous l'Antiquité égyptienne, en espérant placer ce sarcophage dans une pièce cachée d'une pyramide. Donc le délire pyramidal du personnage qu'incarne Michel Bouquet implique d'étouffer au maximum ce meurtre et essayer de rétablir le bon ordre des choses, ce que devrait être le bon ordre des choses dans la vie d'un homme marié, dans la vie d'une famille et d'un couple exemplaire. Donc évidemment, la libération des mœurs que Michel Bouquet met de l'avant face à Maurice René, qui le trompe avec sa femme, est simplement une opportunité discursive pour créer un effet de détournement, un alibi. Et plus tard, il va tuer Maurice René et essayer de faire maintenir ce règne tout à fait conservateur, régressif et absolument fascisant, extrémiste, qui fait tout le miel, toute la qualité psychologique du cinéma de Chabrol, qui est non seulement un grand observateur des mœurs et des comportements, mais aussi un critique social redoutable. Vous écoutez Au 7e ciel, regard sur le cinéma, une émission entièrement consacrée sur le cinéma. Fin de la première demi-heure de cette émission sur le cinéaste Claude Chabrol, qui a disparu il y a un peu moins d'un an. On peut penser que Chabrol est un cinéaste qui a créé un univers en soi, et on peut parfois aussi avoir simplement en tête, si on le connaît un tout petit peu, le personnage qu'il s'est créé en amont de cette œuvre qui s'est construite avec beaucoup d'acharnement au fil des années. Peu à peu, son personnage s'est un peu détaché de son œuvre, et comme souvent, en fait, chez certains cinéastes de la Nouvelle Vague, comme Truffaut, mais surtout Godard, le personnage du cinéaste a parfois pris le dessus sur l'œuvre, en tout cas, du moins, pour l'imaginaire public. Évidemment, pour ce qui concerne Chabrol, comme Godard d'ailleurs, c'est surtout peut-être en Europe ou dans le milieu cinéphile, peut-être pas dans le grand public en dehors de la France. Mais quand même, Chabrol est quelqu'un qui a su s'inventer un personnage, qui parfois utilisait des stratégies qui étaient semblables à celles qui étaient à l'œuvre dans ses films. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, dans la première demi-heure, je me suis appliqué tout à l'heure à parler du film La femme infidèle. La femme infidèle est un film qui joue beaucoup sur le principe de l'alibi, c'est-à-dire un alibi parfois culturel, un alibi lié à la mode, c'est-à-dire pour ce qui concerne La femme infidèle, la libération des mœurs, la libéralisation des mœurs, qui est un argument en fait que déploie Michel Bouquet, le mari trompé, aux yeux de la personne qui le cocufie, incarnée par Maurice René, pour mieux ensuite détourner ses arguments qui lui fait affirmer que finalement, lui, il est tout à fait ouvert à ce que sa femme le trompe, il la trompe lui-même, etc. Et il va simplement utiliser l'argument social et la mode idéologique comme appât pour mieux s'en détourner et pour mieux appliquer une volonté tout à fait régressive et qui sous-tend aussi une idéologie diablement conservatrice, terrifiante, et c'est la critique politique de Chabrol la plus aiguë que l'on peut voir dans cet usage de l'alibi. C'est une critique politique au sens le plus fort du terme, puisque la parole de personnages qui sont pratiquement des sophistes, en fait, qui jouent avec les mots, est toujours trompée par les actions qu'ils posent, ce qui montre bien, en fait, une certaine manière de concevoir le pouvoir qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui dans la scène politique et au-delà, dans la société. Donc, Chabrol démonte cette logique-là qui est à l'œuvre dans tout organe de pouvoir et dans toute personnalité assoiffée de pouvoir, et c'est une de ses grandes forces. Comme personnage public, il s'est inventé aussi un alibi qui est celui de la figure truculente, bon vivant, joyeux, toujours prêt à tourner des films pour avoir l'occasion de manger dans les meilleurs restaurants, hein, puisqu'il tourne souvent en région. La légende veut que chaque repas et chaque lieu de tournage était choisi en fonction de la bonne table qui était à proximité. Tout ça était savamment créé, orchestré, et sans doute en partie vrai, pour mieux cacher en fait la violence du propos, entre autres politique, que je viens de décrire, qui est à l'œuvre dans tout le cinéma de Chabrol et qui le rend éminemment subversif. Et son succès est entre autres dû à cette qualité qu'il a eue, à savoir se créer un personnage qui parfois est en porte-à-faux avec son cinéma, mais qui en même temps en fait est le résultat d'armes et de moyens qui sont aussi à l'œuvre dans ses films, soit l'usage de l'alibi.
Attention, auditeurs du 89.1, coup de chaleur radio à CKRL.
Offrez-vous un t-shirt officiel de CKRL à $12 au lieu de 20. Pendant 5 semaines et jusqu'à épuisement des stocks, nos 5 variétés de t-shirts seront offertes en alternance pour seulement $12. Du 11 au 15 juillet, le vert. Passez-nous voir sur semaine de 9h à 17h au 405 3e avenue.
De Christine Brouillette à Albert Camus, en passant par Anne Hébert et Roger Lemelin, nombreux sont les écrivains qui ont flâné dans Québec. La promenade des écrivains vous propose de suivre leurs traces au gré des textes qu'ils ont laissés. En 2 heures de flânerie et à travers des lectures commentées, vous découvrirez une ville réinventée où la fiction se marie au réel. La promenade des écrivains, 8 parcours différents et autant d'expériences fascinantes tout au long de la belle saison. Pour plus de détails, rendez-vous sur promenade-écrivain.qc.ca.
François va s'en tirer. 6 mois de convalescence et ça devrait aller. François aimerait juste comprendre pourquoi. Pourquoi le conducteur qui l'a frappé sur le chantier routier où il travaillait n'a pas respecté les consignes du signaleur. Pourquoi avoir roulé comme si de rien n'était? Cloué à son lit d'hôpital, François voudrait juste savoir pourquoi.
Dans les zones de chantier routier, respectez les consignes du signaleur. Un message du gouvernement du Québec.
À CKRL, l'été, des nouveautés francophones y en pleut. Du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30, votre radio vous propose son hit parade et ses nouveautés francophones à l'émission Nouveau Cru.
Plus de 10 heures de nouveautés chaque semaine.
L'innovation seulement au 89.1.
Ses cafés, son crédit agricole est juste à côté. Sa mairie fleurie, son microclimat, sa gendarmerie, pas de cinéma, son hôtel, le Lion d'Or, son camp de manouche, quand la ville s'endort. Pas de quartier louche, ses concours de pêche le long du canal, ses gens dans la dèche, son artiste local.
Thank you. Bonsoir, Ellie.
Bonsoir, Charles.
Bonsoir, Cécile.
Bonsoir, Monsieur Saint-Denis.
Tu dis 100 fois de m'appeler Charles.
Non, jamais. Après, on s'attache.
On s'est calme ce soir.
Pas comme hier soir, il y avait une bande de dingues, déguisée en chinois en plus. On a bien rigolé. Qu'est-ce que je vous sers?
Un chivas sans glace.
Dis donc, j'ai lu le journal, ça a l'air bien parti.
Ah, je suis content.
Les ventes ont bien démarré?
Mais arrête, tu penses qu'au pognon, t'as pourtant pas à te plaindre.
Tu peux parler, toi.
Charles, toi, tu vas savoir, qui a dit il faut gagner juste autant d'argent que ce que son imagination permet d'en dépenser?
C'est moi.
Non, c'est pas toi. Cécile, comme d'habitude, hein? Un gin tonic et un Perrier pour monsieur.
Avec ou sans rondelle?
Toi, t'es Perrier, hein?
Si on veut encore plaire, il...
Mais tu plais, fous-nous la paix. Depuis quelque temps, il n'arrête pas de parler de son âge. Et s'en fout, tes bonnes femmes, de ton âge. C'est l'expérience qui compte. Mais c'est vrai qu'on vit une drôle d'époque, hein. Je n'ai jamais vu autant de nichons, de nombril et de cuisses, mais pas touche. Le rideau de fer. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est depuis la chute du mur de Berlin qu'on a toute cette merde.
Tu mets ça sur mon compte.
Oui.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, Cécile?
Ouh, j'en sais rien. Je ne fais pas de politique.
Non, mais c'est vrai, quand tu parles avec les jeunes... Tiens, ma fille, Charlotte. L'autre jour, elle me dit... Papa, il faut qu'on se parle d'homme à homme. Bon, d'accord. Elle me dit... Comment tu réagirais si je te ramenais un vieux à la maison? Elle a 23 ans, Charlotte. Alors je lui demande... Quel âge, ce vieux? Elle me répond 50 ans. Bon, je suis un père tolérant, j'aime pas les tensions... Je réponds un truc du genre, tant que tu es heureuse. Mais elle me l'a ramené, son type. Sympa, d'ailleurs. Je le connaissais de vue, il est avocat, lui aussi. Et n'allez pas me dire qu'elle cherche un père. Hein. Elle en a déjà deux. Le mari de sa mère qui l'a élevé et moi. Alors, hein?
À plus tard.
On vient d'entendre un extrait du film La fille coupée en deux de Claude Chabrol, un extrait assez significatif que j'ai coupé alors justement au moment où on allait entendre une dernière réplique d'un personnage. Donc j'ai envie de m'arrêter un instant simplement pour qu'on termine cette réplique et je vous reviens tout de suite après. Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL.
Tu prends comme ça?
La sexualité est un des grands mystères de l'être humain, mon cher ami.
J'ai vu qu'elle puisse signer hier soir avec Bernard. Elle est toujours aussi belle.
Tu peux lui faire confiance. Dis-moi, Gérard, tu es au courant de cette vente samedi à la salle de la Presqu'île?
Voilà, donc la sexualité est un des grands mystères de la vie. C'est cette réplique que j'avais envie de remettre, de vous faire entendre, en fait. Évidemment, je disais dans cette émission qui a commencé à midi et qui est consacrée entièrement à Claude Chabrol, que une des forces de son cinéma est de remettre sur le tapis en fait des idéologies conservatrices qui se nichent parfois là où on ne s'y attend pas, ou du moins qui s'affirment en sous-main. Parfois des personnages vont dire un certain nombre de choses, vont se vanter d'une vision du monde qui serait en phase avec la situation dans laquelle ils se trouvent, par exemple une libéralisation des mœurs, etc., le contexte social dans lequel ils s'inscrivent, tout ça pour donner pour faire bonne figure en fait, mais en sous-main, de manière louvoyante, c'est d'autres idées, d'autres motivations qui animent les personnages. Dans La fille coupée en deux, qui est le film de Claude Chabrol réalisé en 2006, que je mets en contrepoint de l'autre exemple, un film que Chabrol avait réalisé en 68 et qui s'appelle La femme infidèle. Donc, dans La fille coupée en deux, on se retrouve évidemment dans un tableau de mœurs qui fait le portrait de personnages qui, en général, étaient jeunes au moment de 68 et qui, aujourd'hui, sont encore évidemment plus jeunes que Chabrol, qui avait déjà près de 80 ans lorsqu'il a réalisé ce film. Et ce qu'on voit, en fait, c'est des personnages qui, cette fois-ci, ont eu donc une traversée, un parcours qui les a menés d'un point A à un point B ou un point C, peu importe. Mais en tout cas, ce sont des personnages qui sont arrivés, d'une certaine façon. Et le personnage qu'incarne François Berléand dans ce film, qui est un écrivain, qui sera un peu une parodie de l'écrivain médiatique intelligent, raffiné par excellence en France, par exemple, ça pourrait être quelqu'un comme Philippe Solers, mais vraiment très parodie. Philippe Solers, dont on ne retiendrait que l'image médiatique plutôt que les écrits ou les réflexions qui sont parfois beaucoup plus complexes, beaucoup plus raffinées que la parodie qui sont incarnées à travers l'image médiatique de Solers. Donc la parodie de son écriture, c'est souvent l'image médiatique de l'auteur. La parodie de l'écriture, la parodie d'une œuvre montre que l'auteur est parfois son pire ennemi pour mettre de l'avant un travail qui peut se trouver antinomique avec ce qu'il promeut médiatiquement. Bon, sans vouloir m'enfarger dans les fleurs du tapis en étant un peu trop, en élaborant un peu trop sur cet état de fait, n'empêche qu'il y a un constat que fait Chabrol dans le film, c'est cette opposition évidente dans une période médiatique comme celle que l'on connaît, dans laquelle se retrouvent plongés ces personnages, entre ce qu'ils représentent sur la scène audiovisuelle et ce qu'ils vivent dans les coulisses. Rien d'étonnant là-dedans. Cependant, ce qui frappe, c'est comment, entre la fin des années 60 et 2006, Chabrol a aiguillé avec beaucoup plus de subtilité cette critique du conservatisme qui parfois se présente sous des atours où on n'y attend pas. Donc, dans la fille coupée en deux, on a le récit d'un personnage qui est incarné par Ludivine Sagné dans la mi-vingtaine et qui est une Miss Météo à la télévision. Et on voit comment, à travers simplement ce personnage et l'histoire scabreuse qui va se développer autour d'elle, comment Chabrol, en fait, c'est s'inspirer de la production contemporaine. Le personnage que joue Ludivine Sagné rappelle celui peut-être assez connu, incarné par Nicole Kidman à la fin des années 90 dans un film de Gus Van Sant qui s'appelle To Die For, où Nicole Kidman est en fait une Miss Météo également qui se retrouve plongée dans une histoire de mœurs scabreuses. Là, ce qu'on voit, c'est dans la séquence que j'ai présentée, entre autres, le discours de personnage, donc arrivé, l'écrivain, joué par Berléand, son comparse avec lequel il est en dialogue, qu'on entend tout au long de l'extrait que j'ai présenté, qui est un des hauts notables de Lyon. Le film se déroule à Lyon. Et tous deux, en fait, dissertent sur, finalement, la jeunesse et le nouveau puritanisme, en fait. Et le nouveau puritanisme, c'est quoi? Ben, c'est finalement une exacerbation fort médiatisée de la sexualité qu'on représente partout. Évidemment, Ludivine Sagné, qui est le personnage que convoite l'écrivain François Berléand et qu'il va appâter jusqu'à lui briser les reins, si on veut, jusqu'à la mettre sous son joug. Elle est tout à fait ça, je veux dire, médiatiquement. Et là, cette image de petite bombe sexy. Par ailleurs, du moment qu'elle sort du champ de la caméra télévisuelle, elle devient cette jeune femme qui se fait plus ou moins manipuler ou appâter au gré des rencontres avec des hommes de pouvoir, que ce soit dans le milieu télévisuel ou que ce soit dans la scène culturelle au sens plus large à travers donc cet écrivain incarné par Berléand. Et ce qu'on a entendu dans le dialogue que j'ai présenté, c'est clairement, en fait, un désarroi masculin de personnages qui ont tournant de la cinquantaine face à un nouveau puritanisme, en fait. Un nouveau puritanisme qui est en place, que Chabrol peut observer à un premier degré, que nous pouvons observer tous, soit une exacerbation de la représentation de la sexualité en ces termes les plus crus dans les médias de masse, doublé d'un puritanisme de plus en plus fort et d'une observation des mœurs via les médias pour ce qui est des personnes publiques, qui est ni plus ni moins qu'un instrument de pouvoir, une manière de contrôler et de normaliser la façon de se comporter en société pour déranger personne et étouffer toute forme d'anomalie. Lafleur sur les ondes de CKRL, vous écoutez au 7e ciel, regard sur le cinéma, fin de la deuxième demi-heure de cette émission qui donc se termine incessamment à 13h. Émission entièrement consacrée à Claude Chabrol, une œuvre protéiforme qui a diverses voix qu'on peut engager pour en parler. Donc, j'ai un peu mis l'accent sur la voix qui est peut-être la plus évidente, soit celle du social. Le cinéma de Chabrol est reconnu depuis longtemps comme étant un des puisiers ou un des lieux dans lesquels on peut le mieux observer comme un miroir la société française, non seulement la société française des années 60 comme dans La Femme Infidèle, mais aussi celle des années 2000 qui n'est pas exactement la même. Mais évidemment, ce cinéma qui est une sorte de sismographe des comportements sociaux est aussi un cinéma qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt s'il n'était pas marqué par un sens de la mise en scène, par une maîtrise et un contrôle souvent total de la manière dont on peut raconter un récit pour créer une tension psychologique, pour créer un effet de distorsion dans la représentation de la réalité qui parfois se mêle avec le trouble dans lequel se trouvent plongés les personnages chabroliens. Donc, si on veut, je pense qu'il est important, avant de terminer cette émission, de rendre hommage à un cinéaste qui est peut-être moins connu, mais qui est toujours Claude Chabrol, un cinéaste qui est un des tributaires les plus éloquents d'une manière de faire du cinéma que l'on retrouve dès les années 20 dans le cinéma expressionniste, ou en tout cas qui s'amorce un peu par le cinéma expressionniste et qui est celui d'une forme de distorsion de la réalité et de qui vient simplement, entre autres, souligner le contre-pied ou le sens de l'alibi propre aux observations des mœurs ou aux observations sociales que fait aussi Chabrol dans son cinéma. Donc, par exemple, dans le cinéma de Fritz Lang ou dans le cinéma plus tard d'Hitchcock, que Chabrol, tout comme Truffaut, vénérait et lui a même consacré un livre à la fin des années 50. Donc, c'est un type de cinéma qui, le plus souvent, joue sur les malentendus, sur un écart dans l'échelle des plans qui nous fait douter de ce qui est le vrai et ce qui est le faux. Donc, tout à coup, il y a une distorsion de la réalité qui passe simplement chez Chabrol, tout comme chez Lang parfois, par un jeu dans l'échelle des plans sur la manière de faire se déplacer une caméra. Et un mouvement de caméra devient alors une certaine façon de proposer de la pensée via le cinéma. Et c'est là où le cinéma de Chabrol, comme celui de Truffaut d'ailleurs, est si important. C'est Jean-Claude Carrière dernièrement, le scénariste de Buñuel entre autres, mais aussi de Miloš Forman, qui soulignait le fait que le grand problème du cinéma aujourd'hui, qui capitalise un peu trop sur la technique, même quand ils ont des propositions, même quand ces films qui capitalisent sur la technique ont des propositions fictionnelles vraiment intéressantes, je pense à un film comme Inception de Christopher Nolan, en capitalisant trop sur la technique, ils oublient le fait que le grand apport du cinéma sur la manière dont on peut percevoir le monde et sa capacité à créer de la pensée par des mouvements de caméra, à créer de nouvelles idées par une forme artistique qui n'existait pas il y a 150 ans. Donc, une forme artistique aussi nouvelle que le cinéma peut créer de la pensée, peut offrir une nouvelle vision du monde. Et pour ça, il faut essayer de se rapprocher de ce qui se passe dans la tête des personnages en tentant d'en traduire l'essence par des mouvements de caméra. Donc la spécificité cinématographique de Chabrol, ce serait peut-être ça justement, montrer l'ambivalence, la complexité psychologique des personnages, non seulement par des dialogues, par une capacité subtile à faire sortir de la bouche de ces personnages toute une complexité, une réalité tordue qu'ils vivent, mais aussi montrer par la caméra comment cette réalité est tordue, n'est peut-être pas notre réalité, mais une part de la réalité. Et c'est toute l'ambiguïté de la mise en scène au cinéma que de brouiller les pistes entre ce qui est vrai et faux, puisque la matière première du cinéma, et Chabrol le démontre bien, c'est encore la réalité courante qui nous entoure et que nous capons et que nous pouvons capter lorsque on fait du cinéma par les moyens d'une caméra et par un enchaînement de plans et par les mouvements de l'image. Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL. Vous avez écouté Au 7e ciel, regard sur le cinéma. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.